Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
Le retour massif volontaire ou forcé des personnes dans leur pays d'origine pose généralement des problèmes au niveau d'accueil. C'est le cas de la vague de Congolais de la RDC refoulée ou si vous voulez chasser dernièrement de Brazzaville. Faute de structures d'accueil qui sont bien organisées. La plupart de ces personnes vivent dans des conditions difficiles sur le site d'accueil. Alors comment bien faire pour organiser ces genres de services d'accueil lorsqu'il y a des personnes qui arrivent en masse et qui sont refoulées? Nous en parlons, je l'ai dit, avec nos deux invités, le docteur Freddy Mbakata, qui est vraiment dans ce domaine. Il est accompagné de Bruno Mugnololo. Et docteur Freddy Mbakata, je commence avec vous. Comment on peut faire lorsqu'on a assisté à cette vague de Congolais qui ont été chassés des Brazzaville, qui est arrivée par centaines, et puis on a vu au départ, c'était pas facile, hein, avant qu'on trouve les deux sites d'accueil au niveau de la commune de Kinshasa et du stade Reine Astrid. Comment on peut s'organiser en amont par rapport à lorsqu'il y a une vague de personnes refoulées?
Oui, le cas de nos compatriotes qui viennent de la République du Congo, c'est un cas spécifique. Mais si nous voulons aller dans la généralité, nous devons d'abord nous dire quand des personnes quittent leur pays, traversent la frontière de leur pays pour aller à l'extérieur dans un autre pays pour chercher refuge. Il y a plusieurs raisons qui prévalent à ces déplacements. Il peut y s'agir de persécutions d'ordre religieuse, politique, autre chose. Oui. Il peut y avoir aussi un déplacement à l'interne. On ne traverse pas les frontières de son pays. Dans ce dernier cas, on parle de déplacés internes. Dans tous les cas de figure, quand il y a un retour, il y a des conditions qui doivent être remplies pour que ce retour puisse avoir lieu. En principe, selon les normes internationales, il faut s'attendre à ce que les causes qui ont prévalu au départ, soit pour aller en refuge dans un pays étranger ou en déplacement interne, que ces causes-là cessent avant que le retour puisse s'effectuer. Et la plupart des cas, c'est un retour qui doit être volontaire. Mais quand on parle de refouler, vous entendez même le vocable, même le verbe refouler, ce n'est plus volontaire, c'est forcé. Et très souvent, quand il s'agit de ces cas, le pays hôte n'a pas le temps de se préparer pour accueillir ses concitoyens. Et c'est comme ça qu'ils viennent en masse, ils sont entassés, comme vous le dites, dans des endroits parce qu'on ne s'attendait pas à cela. Alors que la bonne politique aurait voulu que le pays qui va vouloir refouler les gens pour des raisons diverses puisse informer les pays d'origine. Alors, si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui doit se faire? En principe, on s'attend à ce que toutes ces personnes vivent dans des conditions de promiscuité parce qu'ils arrivent en masse. Ils peuvent arriver à 2000, 5000 peut-être par jour. Et le pays d'accueil, comme j'ai dit, n'a pas de structure préparée pour ça. On les met dans un stade comme c'est le cas actuellement et ils vont vivre dans des conditions de promiscuité. Qu'est-ce qu'il faut craindre là-bas? Parce que partant de ce qu'on peut craindre, on doit préparer les structures d'accueil pour éviter les conséquences, quoi. Qu'est-ce qu'il faut craindre? Il faut craindre l'éclosion de maladies infectieuses, des maladies de main sale, des maladies de voies respiratoires hautes, beaucoup de choses, parce qu'ils vont vivre dans des conditions d'intempéries, la pluie et tout. Il n'y a pas d'abri qui sont préparés. Donc, ce qu'on doit faire, c'est quoi? Si on était préparé, c'est informer, c'est de préparer les abris d'accueil. Et dès qu'ils arrivent, c'est à partir des centres d'accueil, on va pouvoir passer à des activités des activités telles que l'enregistrement. Qui arrive? C'est une femme ou c'est un homme? Il a quel âge? Il rentre dans quelles conditions? Est-il malade ou bien portant? Donc l'enregistrement, et tout de suite après, il y a un screening médical qui peut se faire rapidement. Il y a aussi un screening social qui peut se faire pour voir si la personne qui rentre, c'est une personne vulnérable.
Alors excusez-moi de vous interrompre déjà à ce niveau. Votre association travaille avec le ICR. Alors vous avez parlé, lorsqu'il y a un retour volontaire, il y a moyen de préparer des structures d'accueil. Et comment ça se passe généralement lorsqu'il y a un retour volontaire? Comment ça se passe généralement?
Oui, le retour volontaire d'abord est organisé. Le retour volontaire est organisé. Oui. Je prends un cas spécifique. Nos compatriotes de l'Équateur qui sont partis en République du Congo avec la guerre des Ennélés et tout ça, depuis je crois 2009, à partir de 2012, on a organisé leur retour. Mais ce retour s'est fait en remplissant certains préalables, notamment une réunion tripartite qui doit regrouper les pays d'origine, la RDC, les pays d'accueil, la République du Congo et le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, qui a le mandat des Nations Unies pour rapatrier le réfugié. Alors, on s'organise, on s'entend sur la date, les débuts de ce retour, les points de retour sont bien connus, les points de départ du pays hôte sont bien connus, et de part et d'autre, l'ACR s'organise avec ses partenaires opérationnels qui sont là-bas, de mise en exécution de leur projet, pour les accueillir. Donc, on voit comment va s'effectuer le retour. Est-ce qu'ils vont rentrer par pirogue? Est-ce qu'ils vont rentrer par avion? Est-ce qu'ils vont rentrer par route? Est-ce qu'ils vont rentrer à pied? Dans le cas d'espèce, en République du Congo, on n'est traversé que le fleuve Ubangi. On partait par pirogue, on arrivait et c'était organisé. De part et d'autre, en République du Congo, le Haut Commissariat des Nations Unies, avec les autorités d'en face, accompagnaient les personnes et on savait, il y avait des convois organisés. On savait combien devraient venir par convoi. On vous dit, 500 personnes arriveront aujourd'hui. De l'autre côté, on est déjà informé, les structures sont bien préparées, on les attend. Il y a aussi...
À vous entendre, c'est comme si, lorsque le retour est volontaire, tout se passe... facilement. J'aimerais que M. Roger Mouniololo puisse répondre à ces questions. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez quand bien même un retour est volontaire?
Donc, quand le retour est volontaire, il est toujours organisé, planifié. Donc,
tout se passe
correctement. Ouais. Parce que, comme l'a dit le directeur général, le docteur Fedi Mbakata, il y a une tripartite qui se tient d'abord en amont. Entre le pays hôte des réfugiés, le pays d'origine des réfugiés et le Haut Commissariat des Nations Unies. Tout est bien organisé. Les structures d'accueil, on connaît qui quitte la République du Congo en l'occurrence pour entrer en République démocratique du Congo. Déjà en République du Congo, c'est connu. Et quand les réfugiés arrivent, ils traversent la rivière, tout est organisé. Et en République du Congo, on sait qui a été annoncé. Est-ce qu'il est réellement arrivé? Quel est son statut social? Et là, le screening socio-médical. Quel est son état de santé? Est-ce qu'il est seul? Est-ce qu'il est dans un ménage, dans une famille? De combien d'individus? Oui. Combien d'hommes? Combien de femmes? Tout est bien organisé. Et il y a tout un programme d'accueil dans les centres d'accueil. Il y a des centres qui sont aménagés, répondant aux standards, aux normes internationales pour accueillir les retournés. Donc, tout est bien préparé. Contrairement au refoulement où tout est brusqué, où le pays hôte, refoule, et où le pays d'origine des réfugiés n'est même pas informé.
Et dans ces cas, comment faire face à cette situation? Lorsqu'on est devant une situation de fil, comme ça se passe maintenant, il y a de refoulés qui sont venus de Brazzaville, qui sont là.
Le docteur l'a très bien dit, docteur Fedi Mbakata l'a bien dit. Est-ce que dans les cas d'espèce, ici en l'occurrence, la République du Congo et la République démocratique du Congo se sont concertés? Certainement pas. Quand on voit l'arrivée, la brutalité avec laquelle les gens sont renvoyés, refoulés, ils ne sont même pas rapatriés. On ne peut pas dire qu'ils sont des retournés, organisés, tout ça. Ils sont refoulés.
Et comment faire face?
Donc, il s'agit de la République du Congo d'avoir des capacités d'accueil. Et ici, vous voyez, nous, les partenaires du ACR, nous ne sommes même pas informés. Et même le ACR n'est pas informé. Donc, il s'agit d'un problème d'État à État. Et si la République démocratique du Congo devrait développer des capacités d'accueil en pareille situation, devrait se préparer déjà pour savoir, j'ai des ressortissants en Angola qui ont déjà connu ces cas, il y a des ressortissants dans les pays limitrophes, nous avons 9 pays limitrophes, donc notre pays devait déjà savoir comment s'organiser en cas de refoulement massif. Comme c'est le moment.
Donc, alors, vous voulez compléter
Oui, et ce que je veux dire, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que dans les cas de refoulement, on vous informe qu'il y a vos compatriotes qui arrivent, par exemple, au Beach Ngobila. Mais c'est en catastrophe que l'accueil se prépare. Je crois que le gouvernement est informé, le gouvernement informe le gouverneur. Ensemble, ils partent au Beach avec des bus, ils accueillent déjà en vrac. Je me demande même si les gens, les structures au niveau du Beach Ngobila, ces structures ont le temps d'enregistrer les personnes qui rentrent. Je crois que non, parce qu'ils arrivent par milliers, 1000, 2000, 3000. On les jette comme ça. On ne contrôle même pas parfois pour savoir si réellement tous sont des Congolais. Et ils sont embarqués dans des bus, on les dépose quelque part parce qu'il faut encore faire face à la vague qui arrive. Donc, c'est en catastrophe. L'essentiel, c'est ce qui a été fait par notre gouvernement, c'est de les accueillir dans n'importe quelle condition parce qu'on est mis devant un fait accompli, de les mettre quelque part. C'est ce qui a été fait au stade, je crois, Cardinal Malula et dans la maison communale, je crois, de Kinshasa. Et après cela, qu'on les ait accueillis tels qu'on les accueille en catastrophe, développer les structures qui vont faire en sorte qu'il n'y ait pas éclosion de maladies.
Ça, c'est très important.
Alors, oui. C'est ce qui a été fait. Je crois que notre gouvernement, quand bien même qu'il est tellement critiqué, mais mis dans des conditions telles qu'il était mis, notre gouvernement est en train de faire le nécessaire pour que les conditions s'améliorent. C'est ce qui nous réjouit, d'ailleurs, malgré le fait qu'on peut déplorer les intempéries, il n'y a pas encore éclosion de maladies telles que le choléra, des diarrhées rouges ou quoi là, je ne sais pas moi quoi. Ça, c'est à mettre à l'actif du gouvernement, qu'on le veuille ou non.
Docteur Mbakata Fridi, on va vous retrouver tout à l'heure, il y a des auditeurs qui sont déjà en ligne. Nous parlons de comment organiser les services d'accueil de retournés volontaires et des personnes refoulées. Nous en parlons avec le docteur Mbakata Fridi, qui est président de l'Association pour le développement social et la sauvegarde de l'environnement, mais aussi avec Roger Mugnololo, qui est chargé des suivis et évaluations dans cette même association. Vous voulez intervenir, vous voulez poser des questions, appelez au 081 890 63 94.
Capis Soir vous propose du lundi au vendredi à partir de 16h, heure de Kinshasa, la chronique développement durable et environnement, les offres d'emploi, les nouvelles du site web de Radio Okapi. Retrouvez à partir de 17h sur la radio de la paix, les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Synthèse de l'actualité africaine et internationale, économie, paroles d'enfants, rencontres avec les Congolais de l'étranger et les infos sport toutes les demi-heures. De 6h à 19h, bienvenue dans Okapi Soir.
Voilà, Ogi Bendelo nous appelle de Kikwit dans le Bandundu. Patient Paul est ici à Kinshasa. Ogi Bendelo, bonjour.
Bonjour Marcel Ngomombala, je salue nos invités, Dr. Freddy et Roger Mugnololo.
Allez-y, on vous écoute. Quelle est votre question, Guy Bendelo, sur comment organiser les services d'accueil de retournés volontaires ou des refoulés?
Merci de nouveau, Marcel, de m'avoir accordé la parole. J'ai des questions à poser à l'invité. La première est de savoir, l'invité a parlé que là, est un volontaire, tout est bien organisé. Je vais poser la question à Mersim. Si cela est ainsi, comment maintenant nous faire les RD Congolais qui sortent du Congo d'en face, sont maltraités, tués et beaucoup d'autres choses pires. Si un volontaire est bien organisé, pourquoi nos frères maintenant sont très bien maltraités? Et la deuxième question que je voulais poser par rapport à l'organisation, parce que nous avons constaté que le refoulement ou la sortie est fait souvent par des frontières. Est-ce que notre gouvernement, M. Freddy, y compris Roger Mugnololo, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ont-ils sensibiliser les populations frontières.
Ogui, on a du mal à poursuivre avec vous, mais on a compris l'essentiel de votre question. Vous avez demandé, certainement vous avez soulevé ce qui a un peu déplu à tout le monde, le fait que certains Congolais aient été maltraités pendant le refoulement de Brazzaville. Mais vous avez également posé la question de savoir si au niveau de l'Association pour le développement social et la sauvegarde de l'environnement, ils essaient de sensibiliser la population par rapport à ces genres de situations. Nos deux invités vont vous répondre tout à l'heure. On va accorder la parole à Patient Paul qui est à Kinshasa. Patient Paul, bonjour.
Bonjour Marcel, ainsi qu'aux deux invités. J'ai deux petites questions à poser à nos deux invités. Quels sont les premiers soins ou signes devrions-nous apporter en premier lieu aux réfugiés ou aux refoulés donc? Car je vois aujourd'hui les cas de mes compatriotes. Seul un sucré, un pain et une de sardines. Et chose curieuse, dans ces moments difficiles, il y a certains de mes compatriotes d'ici, à Kinshasa, qui s'infiltrent pour être enregistrés et bénéficier de l'assistance que le gouvernement accorde à ces réfugiés-là, à ces réfugiés-là. Et puis la deuxième question de savoir, la RDC connaît plusieurs fois de ces cas de refoulement, mais pourquoi il n'y a pas une mesure, une disposition, voilà, prise en avance, une fois que nos compatriotes veulent rentrer de leur propre gré, et les autres qui sont renvoyés subitement. Je ne sais pas si le gouvernement songe aussi aux autres Congolais qui certaines sources parlent, comme en Angola, que d'ici là, eux aussi seront venus refoulés. Donc, quelles sont les dispositions prises par notre gouvernement en cas de refoulement pour les autres qui sont en Angola? Voilà, c'est Patient Paul de Kinshasa.
Voilà, merci Patient Paul. Guédon Mwamba est à Kolwezi dans le Katanga. Bonjour Guédon Mwamba.
Bonjour Marcel, bonjour à nos invités. C'est Guédon Mwamba depuis Kolwezi.
On vous écoute?
Voilà, j'ai des questions à poser à nos invités. Nous avons beaucoup d'étrangers ici chez nous, n'est-ce pas, en RDC, mais en aucun jour entendu refouler les étrangers. Alors la question c'est de savoir pourquoi nous ne le faisons pas, parce que nous sommes animés de bonne humeur ou bien c'est la question peut-être que les invités vont nous répondre. Et ensuite, il n'y a pas moyen de chercher un endroit. Si bien sûr le gouvernement, n'est-ce pas, n'a pas les moyens pour ce moment de chercher, je ne sais pas moi, un endroit. Oui, de loger le replay là. Mais chercher un endroit là très calme comme ça, ils vont, je ne sais pas, arranger pour eux pour ce moment. Ils vont y rester en attendant parce que c'est compliqué de laisser le replay en ville, tout ça. Ils vont créer l'embouteillage. C'était ça ma question.
Voilà, merci Guédon Mwamba. Vous avez appelé de Kolwezi dans le Katanga et à Lubumbashi dans la même province. On va retrouver Ismaël Mopoyi. Bonjour Ismaël.
Bonjour Marcel Ngomo Keba et à l'invité, à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Allez-y, on vous écoute Ismaël.
Oui, ma première préoccupation c'est de savoir, juste quand on dit un accueil pour les expatriés du Congo-Brazza. Et ça fait quelques semaines dont on a dit que le ministre n'avait jamais signé le visa et le passeport pour tous ceux qui devaient se réfugier au Congo-Brazza. Est-ce que ce n'était pas un coup préparé pour que les Congolais puissent retourner au pays? La deuxième question, c'est de savoir comment on prépare l'accueil de ceux qui pourraient revenir. Et faisons un peu la rétrospection de la vie si le terrain de football Cardinal Malula n'était pas là. Qu'est-ce qu'on devait faire? Où est-ce qu'on devait accueillir ces gens? Si on accueille ces gens, est-ce que l'État a déjà prévu un endroit et des personnels dont ils peuvent s'occuper de ces gens de personnes? Par une étude spécifique, comment accueillir ces genre de personnes et les attribuer des activités ou comment ça se passe. Merci beaucoup.
Merci Ismaël Mopoy depuis le Lubumbashi dans le Katanga. On va retrouver nos deux invités. Vous avez remarqué les questions fusent dans tous les sens, mais on va rester vraiment dans l'objet de cette émission, comment organiser les services d'accueil. Il y a une question de... D'abord, c'est une question de curiosité de Ogi Bendelo, qui a cherché à savoir si au niveau de votre association, vous essayez également de sensibiliser la population par rapport au refoulement, par rapport au retour volontaire. Docteur Freddy Makat.
Oui, je répondrai en disant ceci. En ce qui concerne le retour de nos compatriotes qui étaient partis en réfuge en République du Congo ainsi qu'en République centrafricaine. Ils sont sensibilisés parce que nous sommes impliqués dans ce retour volontaire qui est organisé après qu'il y ait eu tripartite, la RDC, République du Congo et le ACR d'une part, et puis la RDC, la République centrafricaine et la ACR de l'autre part. Donc, dans ce cas, les gens sont sensibilisés, nous les sensibilisons, nous participons à leur accueil quand ils viennent, nous participons au paiement des frais qu'on leur donne pour pouvoir survivre les 30 premiers jours. Nous participons aux activités de réinsertion de ces compatriotes qui étaient en refuge pendant 2 ans ou 3 ans, qui ont tout perdu ici, n'ont pas d'abri, n'ont pas de quoi. Nous participons à la construction d'abris de leur maison ici pour qu'ils reviennent. Donc là, c'est organisé, comme mon collègue l'a dit, par les ACER. Les fonds sont mis à la disposition de notre organisation et d'autres partenaires du ACER. Donc, à l'accueil, on les reçoit. Et il y a aussi des activités de réinsertion qui sont là, qui sont développées en leur faveur. Ça, c'est si c'est organisé. Il n'y a pas de problème. Le tout se passe dans le meilleur de conditions, comme je peux dire, contrairement à un refoulement.
Il y a aussi cette question de patient Paul. Là, je me tourne vers Roger Mugnololo. Il y a patient Paul qui a dit, c'est pas la première. C'est vrai que pour ce qui est du cas cette fois-ci de Congolais refoulés de Brazzaville, ça dépasse un peu tout ce qui est arrivé auparavant. Mais patient Paul dit que c'est pas la première fois qu'on refoule des Congolais. Il y a plusieurs fois en Angola, il y a des Congolais qui ont été refoulés. Comment on peut pas, par rapport à cette expérience, s'organiser déjà pour ce qui est de l'accueil? Est-ce que c'est bien possible?
Oui, c'est bien possible. Et d'ailleurs, le docteur Fridim Bakata l'a dit tout à l'heure. Nous observons que le gouvernement de notre pays s'organise du mieux qu'il peut. Vous voyez, c'est un refoulement, ce n'est pas un retour volontaire. Il faut que le peuple, notre population comprenne qu'il ne s'agit pas d'un retour volontaire. C'est un refoulement. Donc, forcément, nous pensons que il n'y a pas eu le gouvernement de notre pays n'a pas été informé de la décision qui allait être prise de l'autre côté. Donc on est surpris, mais nous remarquons que notre gouvernement fait du mieux qu'il peut. Et comme l'a si bien dit le docteur, les gens arrivent, ils sont reçus, convoyés par bus jusque dans des stades, et de là nous voyons comment ils sont transportés jusqu'en des lieux des centres de transit. Donc nous pensons que le gouvernement se débrouille, mais effectivement, notre gouvernement n'en est pas à sa première expérience. Donc, comme je l'ai déjà dit, on devait développer des capacités d'accueil en pareilles circonstances, se préparer, parce qu'il y a une distinction entre un retour volontaire et un refoulement. Voilà, nous faisons face à un cas de retour non volontaire. Donc, notre population, nos compatriotes sont refoulés, manu militari, et notre gouvernement est quelque peu désemparé, mais nous le félicitons quand même de voir que
les efforts qui sont quand même entrepris. Oui, docteur Fridim Bakata.
Ah oui, et ce que je veux dire, d'abord la question, c'est une très 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 bonne question. Notre compatriote demande, il dit que notre gouvernement, c'est pas la première fois qu'il est confronté à un cas pareil. L'Angola, on connaît à plusieurs reprises, et d'autres pays aussi. Ce que nous devions faire, ce que nous devons conseiller au niveau de notre gouvernement, il n'y a pas que seulement des cas pareils de refoulement par d'autres pays. Les catastrophes naturelles arrivent aussi. Une pluie diluvienne peut tomber quelque part en porte de maison. Des gens se retrouvent sans abri, sans quoi manger du jour au lendemain. Donc, on doit être préparé dans ce genre de cas. Il doit y avoir des structures qui ne sont là que pour faire face à des urgences qui peuvent survenir à tout moment. On doit avoir des abris préfabriqués, qu'on peut monter en toute hâte, les cas échéants. On peut avoir des tentes disponibilisées quelque part, on peut avoir de l'eau, des biscuits hyper protéinés, des habits, des vêtements de seconde hand, des kits médicaux qu'on peut déployer rapidement, et aussi, surtout, un personnel bien qualifié et entraîné pour cela, pour faire face à des catastrophes pareilles. Il n'y a pas que des refoulements. Il peut s'agir d'une pluie, comme j'ai dit, des inondations. Je ne sais pas moi, couler de lave à Goma, on a connu le volcan Niragongo. Les gens ont fui à Gisenyi. Donc, des catastrophes naturelles ou pas naturelles, des guerres peuvent survenir. Un gouvernement responsable doit être préparé le mieux qu'il se peut pour faire face à cela. Si la préparation est là, et que si le gouvernement est dépassé par l'ampleur du nombre, ça c'est autre chose. On émettra bien sûr des critiques, mais les gens comprendront. On était préparé peut-être pour 1000 ou 5000, mais il y en a eu 15, 20 000, 30 000. C'est normal qu'on soit un peu dépassé. Donc nous devons tirer leçon de tous ces cas que nous sommes en train de vivre. Parce qu'après Brazzaville, il ne faudra pas que demain qu'on soit surpris. Ceci doit nous servir de leçon pour qu'il y ait une très bonne préparation, qu'il y ait des structures bien préparées, qu'il y ait des matériels. Nous avons un ministère chargé de
questions humanitaires.
C'est au sein de ce ministère-là que nous devions nous organiser. Je vous remercie.
Bah, docteur Bakata Freddy, vous êtes revenu sur ça, ce qui est à craindre lorsqu'il y a une telle concentration de personnes qui vivent dans une telle promiscuité. Il y a de certaines maladies à craindre. Hein. Alors pour ce qui est par exemple des personnes qui sont là regroupées au niveau du stade Reine Astrid, au niveau de la commune de Kinshasa, et préventivement, qu'est-ce qui doit être fait maintenant?
Alors, ce qui doit être fait, c'est quoi? En principe, on doit essayer de loger des gens selon certaines normes. Je crois que les normes exigent que pour une personne qui est bien prise en charge, il doit occuper une superficie de 3,5 mètres carrés. Donc, combien de gens qu'on mettra dans une tente, combien de gens qu'on doit mettre dans un abri, quelle est la superficie occupée par chacune de ces personnes? Ça, c'est de un. Il doit y avoir des latrines, parce que l'individu, que ce soit dans des conditions de catastrophe ou pas, a des besoins. Il doit évacuer ce qu'il a mangé. Il doit faire pipi, il doit aller aux installations hygiéniques. Donc, il doit y avoir des latrines qu'on doit prévoir. Et des latrines, selon les normes, on doit les mettre au moins à 15 mètres d'abri d'habitation. Et ces latrines, il y a aussi des normes. Pour un trou de latrine, combien de personnes qui doivent l'occuper? Il faut au moins 20 personnes par trou de latrine. Donc, si vous avez entassé 1000 personnes quelque part, vous faites la simple division par 20, vous devez savoir le nombre de trous de latrine que vous devez avoir pour cela. Vous devez avoir des douches, des points d'eau. Vous devez savoir que par douche, par point d'eau, il faut qu'il y ait au moins 50 personnes qui doivent occuper par jour, qui doivent utiliser par jour ce point d'eau. Voilà un peu les normes et les critères sur lesquels on peut se préparer pour accueillir ces gens là-bas. Et puis, il y a des structures médicales, des centres, des petits centres médicaux qui doivent être là, un personnel bien qualifié pour faire face aux premiers signes de maladie qui peuvent éclater. Et apprenez aux gens à bien laver les mains. Nous sommes, je crois, dans les mois de lavage de mains. Oui. Voilà l'occasion pour qu'on en profite. On doit mettre des robinets là-bas où les gens doivent se laver les mains pour manger, pour faire n'importe quoi. Toutes ces mesures, si elles sont bien appliquées, on éviterait l'éclosion de maladies dues à une certaine promiscuité ou bien de maladies de mains sales.
Bon. Alors, docteur Freddy, on doit retenir que par rapport au retour volontaire, les problèmes ne se passent pas souvent parce que tout est bien préparé en amont, mais avec ce qui est arrivé, avec toute cette vague de Congolais qui ont été refoulés du Congo-Brazzaville, il faut que désormais le gouvernement puisse vraiment prendre de dispositions à titre préventif pour arriver à faire face à des telles situations. Roger, vous êtes en train de secouer la tête.
Oui, mais moi, je me rappelle que vers les années 99, hein, 2000, ainsi de suite, il y avait un service qu'on appelait le service de protection civile.
Oui.
Un service public qui était chargé, c'est-à-dire il y avait un personnel formé avec du matériel, sachant quoi faire en cas d'arrivée massive des ressortissants, ainsi de suite. Parce que là, on est vraiment en train de se débrouiller. Est-ce que ces non-compatriotes qui arrivent, est-ce qu'ils ont un repas par jour, ce qu'on appelle les repas chauds, auxquels doivent être, qu'on doit donner aux retournés, selon les standards, ainsi de suite. Nous savons que par jour, selon les normes internationales, un rapatrié, un réfugié, a droit à 400 grammes de céréales, c'est-à-dire riz ou farine de maïs. Il a droit à 120 grammes de légumineuses, hein, petits pois ou haricots. Il a droit à 30 grammes d'huile par jour. Il a droit à 5 grammes de sel par jour pour lui permettre d'être en bonne santé. Et ensuite, il doit évacuer, comme l'a si bien dit le docteur. Est-ce que toutes ces conditions sont remplies? Tous ces critères-là d'accueil sont remplis? On a l'impression que non.
Voilà, on va conclure avec vous, docteur Makata Freddy, président de l'association pour le développement social et la sauvegarde de l'environnement. Est-ce que vous avez un appel à lancer soit au gouvernement, soit à tous les Congolais qui nous suivent à ce moment. Il y a beaucoup de Congolais qui vivent à l'étranger et qui sont en train de nous suivre sur notre site www.radiocapi.net. Un message.
Oui, bien entendu, d'abord, le premier message, c'est à l'égard de nos compatriotes. Je crois que pour le moment, l'heure n'est pas aux critiques inutiles. Nous devons tous concentrer nos efforts pour accueillir, tant bien que mal, nos compatriotes qui arrivent. Il n'y a pas que le gouvernement qui puisse en ce moment secourir toutes ces personnes qui sont dans des conditions de vulnérabilité notoires. Il y a des églises, il y a même nous-mêmes en tant qu'individus. Vous pouvez aller, vous pouvez donner une bouteille d'eau à une personne, vous pouvez apporter certains habits que vous n'utilisez pas, vous pouvez apporter des repas. Donc c'est en ce moment où, je crois, nous devons faire jouer le patriotisme, nous devons aider aussi notre gouvernement. On ne doit pas tout le temps regarder le gouvernement. Bien sûr, le gouvernement, c'est de sa tâche première, c'est ses tâches régaliennes, le gouvernement doit faire quelque chose et beaucoup. Mais nous, les individus, les églises, dans notre ville, puis les églises réveillent. Voilà le moment de faire la charité. Ils peuvent venir en secours au gouvernement, à ce que le gouvernement est en train de faire. Donc, cessons de trop critiquer notre gouvernement. Notre gouvernement est en train de se débrouiller et de faire quelque chose. Moi, en tant que médecin, je suis content d'apprendre que jusque maintenant, il n'y a pas encore eu éclosion de maladies telles que les choléras qui auraient pu tuer beaucoup de gens, ou une dysenterie amibienne, ou quoi là, ou la fièvre typhoïde, ou quoi. Il n'y en a pas encore, heureusement. Alors que
il faut à tout prix éviter cela.
Et il faut à tout prix. Donc, s'il n'y en a pas, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire de la part du gouvernement. Et du jour au jour, le gouvernement améliore les conditions qu'ils apportent là-bas. J'ai appris qu'il y a un camp qui est en train d'être aménagé du côté de Maluku. Tant mieux que cela puisse arriver. À l'égard du gouvernement maintenant, je ne fais que donner un conseil. Vraiment, nous devons capitaliser chaque erreur que nous commettons. Il y a eu Angola, refoulement Angola 1, nous avons connu, je ne sais pas moi quoi. Maintenant, nous devons capitaliser ce qui nous arrive après Brazzaville. Après ceci, nous devons avoir des structures bien organisées, avec du matériel bien disponibilisé, les cas échéants, pour que, dans le meilleur cas, qu'on donne le minimum qu'on puisse donner à des personnes qui se retrouveraient dans de pareilles conditions. Voilà ce que je pouvais dire.
Voilà, merci à vous, docteur Makata Freddy. Vous êtes président de l'Association pour le développement social et la sauvegarde de l'environnement. Merci également à vous, à Roger Mugnololo. Vous êtes chargé de suivi et évaluation dans cette même association. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour aborder les sujets sur comment organiser les services d'accueil, de retourner volontaire ou de refouler. Merci beaucoup à vous.
Merci.